la chronique « Je lire » proposée par Henri Landré.
Cette semaine, je lis au moins 3 livres dans le cadre des rencontres Nature Nomade, le 5e festival nantais des grands voyageurs qui se tient dès ce vendredi et jusqu'à dimanche inclus au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes. Et c'est à l'initiative de l'association Nature Nomade et de la Géothèque rue Racine à Nantes. Vous comprendrez donc qu'il s'agit de littérature et de récits liés aux voyages, aux espaces, au « nature writing » comme on dit en bon français. Et il va être question notamment de nature writing et de comment le traduire en compagnie de Jacques Mayos, qui est l'un des grands traducteurs de certains écrivains américains cultes, notamment publiés chez Gallmeister, tels Edward Abbey ou encore John Gerrash ou éventuellement Henry David Thoreau, puisqu'il a fait une retraduction de Walden relativement récemment. Je suis notamment en train de lire « Désert solitaire » de Edward Abbey, on va dire, je l'ai tout juste achevé, et c'est un des grands livres autobiographiques d'Edward Abbey qui a donné, en 1968, envie à beaucoup, beaucoup de gens de revenir à une vie plus directement liée aux éléments naturels. Un livre culte depuis 50 ans, est-il écrit sur un sticker qui orne la couverture de ce livre publié donc aux éditions Gallmeister en France pour 10 euros, en voici 2 extraits. Un homme pourrait aimer et défendre la nature sans jamais de sa vie être allé au-delà des limites de l'asphalte, des lignes à haute tension et des plans orthogonaux. Nous avons besoin de la nature, que nous y mettions le pied ou non. Il nous faut un refuge même si nous n'aurons peut-être jamais besoin d'y aller. Je n'irai peut-être jamais en Alaska, par exemple, mais je suis heureux que l'Alaska soit là. Nous avons besoin de pouvoir nous échapper aussi sûrement que nous avons besoin d'espoir. Sans cette possibilité, la vie urbaine pousserait tous les hommes au crime ou à la drogue ou à la psychanalyse. Admonestation larmoyante bien connue. J'aimerais maintenant introduire un argument entièrement nouveau dans ce débat qui n'est plus qu'une suite de ponts aux ânes. C'est pour des raisons politiques qu'il faut préserver la nature sauvage. Nous en aurons peut-être besoin un jour, non seulement comme refuge face à un industrialisme excessif, mais aussi comme refuge face à un gouvernement dictatorial, face à l'oppression politique. Le Grand Canyon, le Big Bend, le Yellowstone et les High Sierra pourraient être requis pour servir de base à une guerre de résistance contre la tyrannie. Sur quoi nous fondons-nous, Américains, pour penser que notre propre société échappera nécessairement au mouvement mondial de dérive vers l'organisation totalitaire des hommes et des institutions. Cela peut sembler à l'heure actuelle une thèse fantasque. Pourtant, l'histoire montre que la liberté individuelle est chose rare et précieuse, que toutes les sociétés tendent vers le total jusqu'à ce qu'une attaque extérieure ou un effondrement intérieur casse la machine sociale et rende la liberté et l'innovation de nouveau possibles. La technologie ajoute une dimension nouvelle à ce processus en fournissant aux despotes modernes des instruments d'une efficacité bien supérieure aux anciens. Ce n'est sûrement pas par hasard que la plus radicale des tyrannies ait vu le jour dans la nation européenne la plus avancée, dans les domaines de la science et de l'industrie. Si nous laissons notre propre pays devenir aussi densément peuplé, aussi surdéveloppé et aussi techniquement uniforme que l'Allemagne moderne, il se peut que nous nous bâtissions un destin similaire. Nature sauvage. Wilderness. Ce mot à lui seul fait musique. Wilderness. Wilderness. Nous savons à peine ce que nous entendons lorsque nous prononçons ce mot, mais le son qu'il fait attire tous ceux dont les nerfs et les émotions n'ont pas encore été irrémédiablement abrutis, engourdis, tués par le rut du commerce, la course frénétique pour le profit et la domination. Qu'est-ce qui confère tant de magnétisme à ce mot? Que veut-il vraiment dire? La wilderness peut-elle se définir dans les termes de l'officiel sabir gouvernemental comme simplement un minimum de 5000 acres contigus de zones sans route? Cela constitue peut-être une base essentielle dans une quête de définition, mais c'est insuffisant. Il se joue là quelque chose d'autre. Disons par exemple que la wilderness convoque une nostalgie justifiée, et pas seulement sentimentale, de l'Amérique perdue que nos ancêtres connurent. Ce mot connote le passé et l'inconnu, le giron de la terre d'où nous sommes tous issus. Il dit quelque chose de perdu et quelque chose d'encore là, quelque chose de lointain et d'intime, en même temps quelque chose d'enfoui dans notre sang et dans nos nerfs. Quelque chose qui nous dépasse, quelque chose d'infini. Pur romantisme, certes, mais ce n'est pas une raison pour le rejeter. Sans constituer toute la vérité, la vision romantique est une part nécessaire de toute la vérité. Mais l'amour de la nature sauvage est plus qu'une soif de ce qui est toujours hors d'atteinte. C'est aussi une affirmation de loyauté à l'égard de la terre, cette terre qui nous fit naître, cette terre qui nous soutient, unique foyer que nous connaîtrons jamais, seul paradis dont nous ayons besoin, si seulement nous avions les yeux pour le voir. Le péché originel, le vrai péché originel, est la destruction aveugle par simple appât du gain de ce paradis naturel qui nous entoure, si seulement nous en étions dignes. Lorsque je parle de paradis, je veux dire le paradis, pas le banal ciel des saints. Lorsque j'écris le mot paradis, je ne pense pas seulement aux pommiers d'amour et aux femmes d'or, mais aussi aux scorpions et aux tarentules, aux mouches, aux serpents à sonnette et aux monstres de Gila, aux tempêtes de sable, aux volcans, aux tremblements de terre, aux bactéries et aux bouquetins, aux cactus, aux yuccas, à la coquerelle, à l'ocotillo et aux mesquites, aux torrents de boue et aux sables mouvants, et oui, à la maladie et à la mort et à la pourriture de la chair. Un autre livre que je suis en train de lire dans le cadre de ce festival Nature Nomade, eh bien je ne peux pas vous le révéler puisqu'il est dans le cadre d'un prix littéraire qui a été décerné par un jury, mais qui sera révélé au public pendant le festival Nature Nomade le dimanche 7 novembre à 14h30 dans le café littéraire où nous serons installés avec Jet FM. Tout un studio est installé pour suivre ce café littéraire, enregistrer les rencontres et vous les diffuser ultérieurement sur Jet. Je suis donc en train de lire le gagnant de ce prix littéraire, mais ce gagnant ne vous sera révélé que ce dimanche 7 novembre vers 14h30. Donc on fera une petite table ronde autour de ce prix littéraire qui est une première pour Nature Nomade, mais qui pourrait s'installer. Je vous disais que Jet FM sera installé dans le muséum d'histoire naturelle pour Nature Nomade. C'est notamment au premier étage, donc le café littéraire, mais il y a également l'amphithéâtre où il se passe pas mal de rencontres, des conférences et des projections. On enregistrera et documentera tout ce qui doit l'être pour des rediffusions ultérieures sur Jet FM, mais y compris presque in situ pendant ce week-end de festival. Ce samedi 6, aux alentours de 15h, on vous diffusera une première rencontre enregistrée au café littéraire, et puis dimanche 7, à 14h, une autre des rencontres du café littéraire vous sera diffusée sur Jet FM, et puis ensuite à suivre dans les jours et semaines qui suivent, on diffusera au fur et à mesure dans diverses émissions ces rencontres littéraires autour des espaces, autour du paysage, autour du voyage. De voyage, il est question avec William Atkins, un Anglais qui a parcouru de nombreux déserts aux quatre coins du monde. Un livre tout juste publié par Albin Michel en cette rentrée 2021, Dans l'infinité des déserts, voyage aux quatre coins du monde, c'est traduit de l'anglais par Nathalie Cunnington, et je suis en train de le lire pour les besoins d'une rencontre avec William Atkins, qui est l'un des invités étrangers de ce festival Nature Nomade. La rencontre avec William Atkins se fera à 17h au café littéraire, donc dans le Muséum d'Histoire Naturelle au premier étage. Et on vous rediffusera évidemment cette rencontre ultérieurement sur Jet. Voici un extrait de cette infinité des déserts. C'est l'entrée dans le désert au début du livre par William Atkins. Si vous voulez plus de détails sur Nature Nomade, rendez-vous sur www.naturenomade.fr. Vous pouvez aussi avoir plus de renseignements auprès de la géothèque. Et vous pouvez avec profit écouter l'émission Au flux et à mesure de mardi dernier à 18h, dans laquelle Ingrid Morel et Benoît Albert détaillent un peu plus ce festival Nature Nomade. Nous sommes entrés dans le désert de dunes et presque instantanément il est devenu impossible de dire dans quelle direction se trouvait la plaine d'où nous venions. Quand on est perdu dans un labyrinthe, on n'arrive pas à distinguer la périphérie du centre. Cela m'a rappelé que l'un des mots en arabe pour dire désert est synonyme de labyrinthe. Pendant 2 heures, Hassan s'est enfoncé dans les sables à la recherche de son fils Mohamed et de mon compatriote, passant d'un sommet de dune à un autre, roulant sur une piste invisible à mes yeux. Les premières dunes étaient de taille modeste comme en bord de mer, mais au fil des kilomètres, elles se sont faites de plus en plus impressionnantes. L'expérience ne ressemblait à rien de ce que j'avais vécu en dehors de la navigation en pleine mer. Comme si Hassan pilotait un skiff sur les flots agités d'un détroit, notre passage d'une dune à l'autre suivait une cadence bien réglée. Identification d'un passage, accélération dans des rugissements de moteur, puis sensation momentanée d'un entre-deux sur la crête, effilée par le vent avant la plongée soudaine. Je me suis peu à peu senti sonné, d'abord à cause du rythme, puis à cause du minimalisme des lieux. Ça ne s'arrêtait pas. Le sable, l'horizon et puis juste le ciel. Le désert tel que pourrait se l'imaginer un aveugle.
Thank you.